Henry James, Un portrait de femme, chapitre 10. Le lendemain de cette visite à Lockley, Isabelle reçut de son amie Miss Stackpole une lettre dont le rapprochement sur l'enveloppe du timbre de Liverpool et de la nette écriture d'Henriette lui causa une assez vive émotion. « Me voici arrivée, ma charmante amie, » écrivaient les doigts agiles de Miss Stackpole. « J'ai pu enfin arranger ce voyage, qui ne s'est décidé qu'à la veille de mon départ, quand l'intervieweur a fini par consentir à mon chiffre. J'ai jeté quelques objets dans mon sac, comme un vieux journaliste, et j'ai pris le tramway pour me rendre au bateau. Où êtes-vous et où puis-je vous voir? Je suppose que vous passez de château en château, et que vous avez déjà acquis le bon accent. Peut-être avez-vous même épousé un lord. Je le souhaiterais presque, car j'ai besoin d'être présentée dans les hautes sphères, et compte un peu sur vous pour cela. » L'intervieweur demande des détails sur la noblesse. Mes premières impressions, sur les gens en général, ne sont pas merveilleuses, mais je voudrais en parler avec vous, car vous savez que quels que puissent être mes défauts, je ne suis pas superficielle. J'ai aussi quelque chose de très particulier à vous dire. Fixez-moi un rendez-vous dès que vous le pourrez. Venez à Londres, que j'aimerais fort visiter avec vous, ou laissez-moi venir vers vous, où que vous soyez, je le ferai avec plaisir, car vous savez que tout m'intéresse et que je désire voir le plus possible de la vie de famille anglaise. » Isabelle crut préférable de ne pas montrer cette lettre à son oncle, mais lui fit part de son contenu, et comme elle s'y attendait, il la pressa d'assurer en son nom Miss Stackpole qu'il serait enchanté de la recevoir à Garden Court. « Toute femme de lettres qu'elle est, » ajouta-t-il, « je suppose qu'elle ne fera pas un portrait de moi comme l'autre. En sa qualité d'américaine, elle a dû voir des gens comme moi. »« Elle n'en a pas vu d'aussi charmant, » répondit Isabelle, qui ne se sentait pas pleinement rassurée cependant sur le tact littéraire d'Henriette et n'éprouvait pour le côté professionnel de son amie qu'une sympathie mitigée. Elle n'en écrivit pas moins à Miss Stackpole qu'elle serait la très bienvenue sous le toit de Mr. Touchett, et cette jeune personne décidée ne perdit pas de temps pour annoncer son arrivée prochaine. Elle s'était rendue à Londres, et c'est de là qu'elle prit le train pour la station qui desservait Garden Court, où Isabelle et Ralph attendaient son arrivée. « Croyez-vous que je vais l'aimer ou la détester ?» demanda Ralph, tandis qu'ils arpentaient le quai. « Cela lui importera fort peu, » dit Isabelle. « Elle ne se soucie pas le moins du monde de l'opinion des hommes. »« Alors, en tant qu'homme, elle doit me déplaire. C'est évidemment une espèce de monstre. Est-elle très laide ?»« Non, elle est certainement jolie. »« Une journaliste femelle. Un reporter en jupon ?»« Je suis curieux de la voir, » admire Ralph. « Il est facile de la tourner en ridicule, mais il l'est moins d'être aussi courageux qu'elle. » « D'accord, il faut une certaine audace pour se livrer à des attaques sur la personne de son prochain. Croyez-vous qu'elle me prenne une interview ?»« Jamais de la vie, elle ne vous trouvera pas assez important pour cela. »« Vous verrez, » insista Ralph, « elle enverra une description détaillée de toute la maisonnée, y compris Bunchy, à son journal. »« Je la prierai de n'en rien faire, » dit Isabelle. « Vous l'en croyez donc capable ?»« Assurément, ce qui ne vous a pas empêché d'en faire votre amie intime. » « Ce n'est pas mon ami intime, mais je l'aime bien, en dépit de ses travers. »« Eh bien moi, » soupira Ralph, « j'ai peur de la détester en dépit de ses mérites. »« Vous allez sans doute vous éprendre d'elle avant 3 jours. »« Pour voir mes lettres d'amour publiées dans l'intervieweur ?»« Jamais !» protesta le jeune homme. Le train arriva sur ses entrefaites et Miss Stackpole sauta vivement sur le quai. Elle avait bien la beauté délicate, quoique un peu mièvre, qu'Isabelle avait annoncée. C'était une personne nette et ronde, de taille moyenne, avec un visage plein, une petite bouche, un teint clair, une masse de boucles brunes et légères amenées derrière la tête, et des yeux étonnés et très ouverts. Le trait le plus frappant de sa physionomie, c'était la fixité remarquable du regard, qui se posait sans impudence et sans provocation, et comme dans l'exercice d'un droit naturel, sur tous les objets qu'il rencontrait. Il s'arrêta ainsi sur Ralph, quelque peu déconcerté par la mine avenante et dégagée de Miss Stackpole, qui lui faisait pressentir qu'elle ne serait pas aussi sujette à la critique qu'il se l'était imaginée. Elle portait une robe faux-froutante, dont miroitaient les teintes de gorge de pigeon, et Ralph jugea, du premier coup d'œil, qu'elle était aussi nette, aussi neuve et aussi fraîche qu'une première édition avant le pliage. De la tête aux pieds, elle ne devait pas comporter de coquille. Elle parlait d'un ton clair et incisif, d'une voix haute, plus qu'étoffée, et pourtant, Lorsqu'elle eut pris place avec ses hôtes dans la voiture de Mr. Touchett, elle ne fit pas à Ralph l'effet de l'impression en gros caractères, en affreux caractères de manchette, qui l'attendait. Elle répondait avec une abondance lucide aux questions d'Isabelle et à celles que le jeune homme se permit de lui poser, et plus tard, dans la bibliothèque de Garden Court, où elle venait de faire la connaissance de Mr. Touchett, sa femme n'ayant pas cru nécessaire de paraître, elle donna mieux la mesure de sa confiance en elle-même. « Je voudrais savoir, demanda-t-elle, si vous vous considérez comme des Américains ou comme des Anglais. Cela m'aiderait à vous parler. »« Parlez-nous comme vous voudrez, et nous vous en rendrons grâce, » riposta galamment Ralph. Elle fixa les yeux sur lui, et il y avait dans leur expression quelque chose qui lui fit penser à de larges boutons brillants qui auraient maintenu la coque élastique de quelque réceptacle trop plein. Il lui semblait voir sur leur pupille l'image réfléchie des objets environnants. L'expression d'un bouton n'est pas en général considérée comme humaine, mais il y avait quelque chose dans le regard de Miss Stackpole qui causait au modeste qu'était Ralph un vague sentiment d'embarras, comme s'il se fût senti moins secret, plus pénétré qu'il ne l'eût voulu. Ajoutons qu'après un jour ou deux passés en compagnie de la jeune fille, cette impression s'atténua sensiblement chez Ralph, sans pour autant jamais s'effacer entièrement. « Je ne pense pas que vous osiez tenter de me convaincre que vous êtes américain, vous, » dit-elle. « Pour vous être agréable, je serai anglais ou turc, à votre gré. »« Si vous changez aussi facilement, tant mieux pour vous, » rétorqua Miss Stackpole. « Je suis sûre que vous comprenez tout et que les différences de nationalité ne sont pas une barrière à vos yeux, » reprit Ralph. Miss Stackpole le considéra de nouveau avec attention. « Est-ce aux diversités de langues que vous faites allusion ?» « Les langues n'ont aucune importance, c'est de l'esprit, du génie des peuples que je parle. »« Je ne suis pas sûre de vous comprendre, » dit la correspondante de l'intervieweur, « mais j'espère y arriver avant mon départ. »« Il est assez cosmopolite, » intervint Isabelle, « ce qui veut dire qu'il est un peu de tout et pas beaucoup de rien. Je dois dire qu'à mon avis, le patriotisme, comme la charité bien ordonnée, commence par soi-même ou par chez soi, si vous voulez. » « D'accord, Miss Stackpole, mais où ce chez-soi commence-t-il » demanda Ralph. « Je ne sais pas où il commence, mais je sais où il finit. J'en ai vu la fin bien longtemps avant d'arriver ici. »« Est-ce que vous ne vous plaisez pas ici ?» intervint Mr. Touchett de sa vieille voix enfantine. « À vrai dire, monsieur, je ne sais pas encore très bien sur quel pied danser. Je me sens gêné aux entournures, et j'ai éprouvé cette impression d'étouffement dès le trajet de Liverpool à Londres. » « Peut-être étiez-vous dans un compartiment complet ?» suggéra Ralph. « Complet, en effet, mais plein d'amis, un groupe d'Américains dont j'ai fait la connaissance sur le bateau, des gens charmants de Little Rock, Arkansas. Mais malgré leur compagnie, je me sentais oppressée, comme si quelque chose avait pesé sur moi. Je n'aurais pu dire ce que c'était. Il m'a semblé au premier moment que je n'allais pas pouvoir me faire à l'atmosphère. Mais j'espère bien créer la mienne, c'est la meilleure façon de respirer. Vous avez une bien belle propriété. » « Nous aussi, nous ferons un groupe de gens charmants, » dit Ralph. « Attendez un peu et vous verrez. » Miss Stackpole paraissait disposée à attendre et se préparait évidemment à faire à Garden Court un séjour prolongé. Elle consacrait la matinée à ses travaux littéraires, mais Isabelle n'en passait pas moins de nombreuses heures avec son amie, qui, une fois achevée sa tâche quotidienne, déplorait et redoutait la solitude. Ces visites fournirent bientôt à Isabelle l'occasion de prier la journaliste de renoncer à célébrer dans ses articles les agréments de leur commun séjour. Dès le lendemain de son arrivée, elle la surprit à rédiger pour l'intervieweur une lettre, tracée de cette écriture si nette et si lisible que notre héroïne se rappelait avoir vue sur des cahiers d'école, et qui s'intitulait « Américain et Tudor, vision de Garden Court ». De la meilleure foi du monde, Miss Stackpole se préparait à lire son article à Isabelle, qui se mit à protester. « Je ne crois pas que vous puissiez envoyer cela, ni décrire cette maison. » Henriette considéra son amie avec son habituelle gravité. « Mais c'est précisément ce que l'on me demande, et la maison est charmante. Elle l'est trop pour être exposée dans un journal, et mon oncle n'y tient pas du tout. »« N'en croyez rien, » s'écria Henriette, « les gens finissent toujours par être ravis. » Mon oncle n'en sera pas ravi, ni mon cousin non plus, et ils vous accuseront d'avoir trahi l'hospitalité. » Miss Stackpole ne laissa voir aucune confusion. Elle se contenta d'essuyer très soigneusement sa plume sur un petit ustensile qu'elle affectait à cet usage et rangea son manuscrit. « Évidemment, si cela vous déplaît, j'y renonce, mais c'est un beau sujet que vous me faites perdre. Il y a bien d'autres sujets, et il y en a tout autour de nous. Nous sortirons en voiture et je vous ferai voir un adorable pays. Le paysage ne m'intéresse pas, il me faut un intérêt humain. Vous savez combien je suis, combien j'ai toujours été profondément humaine, répondit Miss Stackpole. J'allais parler de votre cousin, l'Américain européanisé. On s'intéresse beaucoup en ce moment à ces transfuges, et votre cousin en présente un type magnifique. Je l'aurais sévèrement malmené. Il en serait mort, s'écria Isabelle. Non de votre sévérité, mais de la publicité. Eh bien, il ne m'aurait pas déplu de le tuer un peu, et j'aurais eu plaisir à décrire votre oncle, qui me fait l'effet d'un type bien plus noble. C'est l'Américain resté fidèle, le beau vieillard. Je ne vois pas quelle objection il pourrait faire à cet hommage public. Isabelle regarda son amie avec étonnement. Il lui semblait étrange qu'une nature si digne d'estime par ailleurs fût sujette à de pareils effondrements. « Ma pauvre Henriette, dit-elle, vous n'avez pas le sentiment de la discrétion. » Henriette rougit vivement, et ses yeux brillants s'embuèrent un moment, ce qui parut plus illogique que jamais à Isabelle. « Voilà une accusation fort injuste, » fit Miss Stackpole avec dignité. « Je n'ai jamais écrit une ligne sur moi-même. » « J'en suis convaincue, mais il me semble que l'on peut avoir de la pudeur pour les autres aussi. » « Oh, excellent !» s'écria Henriette en reprenant sa plume. « Je prends note de ce mot-là pour le replacer quelque part. » Elle était douée d'un caractère excellent, et une demi-heure après l'incident, elle faisait montre de l'humeur la plus souriante que l'on pût attendre d'une journaliste en mal de copie. « J'ai promis d'étudier la vie de la société, » expliqua-t-elle à Isabelle, « et je ne vois pas comment le faire sans modèle, si je ne peux pas décrire cette propriété. N'en connaissez-vous pas une autre à m'indiquer ?» Isabelle promit d'y songer, et le lendemain, en causant avec son amie, elle fit allusion à sa visite à Lockley. « Ah, voilà où vous allez me conduire. Voilà exactement ce qu'il me faut, » s'écria Miss Stackpole. « J'ai besoin de documents sur la noblesse. » « Je ne puis vous y mener, » dit Isabelle, « mais Lord Warburton doit venir ici et vous pourrez le voir et l'observer. Seulement, si vous voulez reproduire ses paroles, je le préviendrai. « N'en faites rien, » supplia sa compagne, « je voudrais qu'il soit naturel. » « Un Anglais n'est jamais aussi naturel que lorsqu'il tient sa langue, » déclara Isabelle. Il n'apparut guère au bout de 3 jours que, selon la prophétie de sa cousine, Ralph eut la tête tournée par la nouvelle venue. Il passait pourtant beaucoup de temps en sa société. Il se promenait dans le parc, s'asseyait sous les arbres, et l'après-midi, quand il faisait bon sur la Tamise, Miss Stackpole occupait une place dans le canot où Ralph n'avait auparavant qu'une seule compagne. Sa présence s'était montrée moins délétère que ne l'avait redouté Ralph au premier contact, pour les 1000 sentiments ténus qui passaient entre Isabelle et lui, car la correspondante de l'intervieweur excitait sa gaieté, et il avait depuis longtemps conclu que ses jours déclinants fleuriraient en un crescendo d'allégresse. Henriette, par ailleurs, ne justifiait pas absolument l'affirmation de son amie touchant son indifférence à l'opinion des hommes, car le pauvre Ralph semblait lui faire l'effet d'un problème irritant qu'il eût été presque immoral de ne pas chercher à résoudre. « Que fait-il de sa vie ? » demanda-t-elle à Isabelle le soir de son arrivée. « Est-ce qu'il tourne toute la journée les mains dans les poches ?»« Il ne fait rien, » sourit Isabelle, « il a beaucoup de loisirs. » « C'est une honte. Quand je travaille, moi, comme un portefeuille, » s'indigna Miss Stackpole, « il faudrait le lui faire sentir. »« Il a une pauvre santé et n'est pas en état de travailler, » plaida Isabelle. « Pouf, n'en croyez rien. Je travaille bien quand je suis malade, » s'écria son amie. Et un peu plus tard, pénétrant dans le canot pour la promenade sur l'eau, elle demanda à Ralph s'il ne la détestait pas cordialement et n'avait pas envie de l'envoyer au fond de la rivière. « Oh non !» protesta Ralph. « Je réserve à mes victimes des tortures plus savantes. »« Et vous seriez, vous, une victime bien intéressante. »« Eh bien, vous me torturez déjà, je puis vous l'avouer, mais je blesse tous vos préjugés, ce qui est une consolation. »« Mais préjugés ? Je n'ai pas le bonheur d'en posséder un seul, ce qui suffit à vous indiquer mon indigence intellectuelle. »« Vous devriez en rougir. Moi, j'en ai de délicieux. Évidemment, j'interromps vos marivaudages, donnez-leur le nom qu'il vous plaira, avec votre cousine, mais cela m'importe fort peu, car je lui rends le service de vous percer à jour et de lui montrer combien vous êtes superficielle. « Oh, c'est cela, percez-moi à jour, » implora Ralph. « Il y a si peu de gens qui voudraient s'en donner la peine. » Miss Stackpole parut ne vouloir épargner aucun effort pour mener à bien cette entreprise et eut recours chaque fois que l'occasion s'en présentait au procédé naturel de l'interrogatoire. Le lendemain, le temps étant mauvais, le jeune homme proposa, en manière de distraction, de lui montrer les tableaux. Henriette parcourut à son côté la longue galerie, dont il désignait au passage les œuvres principales, avec indication des sujets et des auteurs. Miss Stackpole regarda les toiles sans ouvrir la bouche, et Ralph lui sut gré de ne pas proférer les petites exclamations de délice toutes prêtes dont étaient si souvent prodigues les visiteurs de Garden Court. Il faut d'ailleurs reconnaître en stricte justice à l'égard de cette jeune femme qu'elle répugnait à l'usage d'expressions conventionnelles. Il y avait, dans sa façon de s'exprimer, une sorte de recherche et de gravité qui faisait parfois, dans son application volontaire, songer à une personne très cultivée parlant une langue étrangère. Ralph Touchett apprit par la suite qu'elle avait fait de la critique d'art dans un journal du Nouveau Monde, mais elle ne paraissait pas avoir pour cela conservé dans sa poche la menue monnaie de l'admiration. Au moment où le jeune homme attirait son attention sur un charmant constable, elle se tourna brusquement et le considéra comme s'il eût été lui-même un tableau. « Est-ce ainsi que vous passez toujours votre temps ? » demanda-t-elle. « Je ne le passe pas souvent d'aussi agréable façon. »« Non, vous comprenez ce que je veux dire, sans occupation régulière ?»« C'est vrai, » répondit Ralph, « je suis le plus paresseux des hommes. » Miss Stackpole reporta les yeux sur le constable et Ralph lui désigna un petit lancret. C'était un homme en veste et bas rose, avec une fraise, qui s'appuyait dans un jardin au piédestal d'une statue de nymphe et jouait de la guitare pour deux dames assises sur le gazon. « Voilà mon idéal d'occupation régulière, » dit-il. Miss Stackpole se retourna vers lui, et bien que ses yeux se fussent posés sur le tableau, il vit que le sujet lui en échappait. Elle s'attachait à une toute autre préoccupation. « Je ne vois pas comment vous pouvez faire taire votre conscience, » déclara-t-elle. « Ma chère demoiselle, je n'ai pas de conscience. »« Eh bien, je vous conseille de vous en faire une. Vous en aurez besoin quand vous retournerez en Amérique. »« Il est assez probable que je n'y retournerai jamais. »« Auriez-vous honte de vous y montrer ?» Ralph eut un sourire méditatif. « Il me semble que sans conscience, on ne peut concevoir de honte. »« En tout cas, vous ne manquez pas d'assurance, » déclara Henriette. « Trouvez-vous juste de renoncer ainsi à votre pays ?» On ne renonce pas plus à son pays qu'on ne renonce à sa grand-mère. Ce sont deux éléments antérieurs à tout choix, deux éléments de l'être qu'on ne saurait éliminer. Ce qui signifie sans doute que vous l'avez essayé sans y parvenir. Que pensent de vous vos amis anglais? Je fais leur délice? Parce que vous rampez devant eux? Peut-être un peu par mon charme naturel? Soupira Ralph. Je ne le vois pas pour ma part. Si vous possédez quelque charme, il n'a rien de naturel. Il est exclusivement acquis. Ou du moins, vous avez fait votre possible pour l'acquérir depuis que vous vivez ici. Je ne dis pas que vous y soyez parvenu. En tout cas, c'est un charme qui ne me touche pas. Rendez-vous utile de façon quelconque, et nous en reparlerons. Eh bien, soit, dit Ralph, dites-moi ce qu'il faut faire. D'abord, retournez en Amérique. Oui, d'accord. Et après, appliquez-vous à quelque chose. Bien, mais à quelle espèce de chose? À tout ce que vous voudrez, pourvu que vous vous y mettiez. À une idée nouvelle, à une grande œuvre. Est-ce bien difficile de commencer ? Demanda Ralph. Pas si l'on y met son cœur. Ah, mon cœur, fit Ralph, si la chose dépend de mon cœur. N'en auriez-vous pas ? J'en avais un naguère encore, mais je l'ai perdu ces jours-ci. Vous n'êtes pas sérieux, déclara Miss Stackpole, et c'est ce qui explique votre cas. Malgré quoi, un ou deux jours après, elle voulut bien accorder à Ralph un renouveau d'attention et assigna cette fois une cause différente à son étrange perversité. « Je sais ce qui fait votre malheur, Mr. Touchett, » dit-elle. « Vous avez trop bonne opinion de vous-même pour vous marier. »« Je l'avais avant de vous connaître, Miss Stackpole, » répondit Ralph, « mais depuis que je vous connais, j'ai brusquement changé d'idée. »« Quelle absurdité !» déplora Henriette. « Il m'a paru que je n'étais pas digne du mariage. Il vous ferait du bien, et c'est votre devoir. » « Ah !» s'écria le jeune homme, « on a tant de devoirs. Mais alors vous considérez le mariage comme un devoir ?»« C'est évident, ne le saviez-vous pas ? C'est un devoir pour chacun de se marier. » Ralph rumina un moment sa déception. Il y avait chez Miss Stackpole quelque chose qu'il commençait à apprécier. Si ce n'était pas une femme charmante, c'était du moins une brave femme. Elle manquait de distinction, mais elle était courageuse, comme disait Isabelle. Elle entrait dans les cages et faisait claquer son fouet, comme un dompteur bariolé. Il ne la jugeait pas capable d'artifices vulgaires, avant ces derniers mots qui lui firent l'effet d'une fausse note. Quand une jeune fille en âge conjugal prêche le mariage à un célibataire, la première explication que suggèrent ses paroles n'est pas celle d'un pur altruisme. « Ah, il y aurait bien des choses à dire là-dessus, » finit par répondre Ralph. C'est possible, mais l'essentiel n'en persiste pas moins. Il me paraît bien égoïste de votre part, je dois vous le dire, de continuer à vivre seul, comme si vous ne trouviez aucune femme digne de vous. Vous croyez-vous donc supérieur au reste de l'humanité ? En Amérique, on se marie. Si c'est mon devoir, demanda Ralph, n'est-ce pas aussi le vôtre, par analogie ? Les yeux de Miss Stackpole réfléchissaient le soleil sans ciller. Caressiez-vous l'espoir de trouver un défaut dans mon raisonnement ? Il est évident que j'ai autant de droits à me marier que personne. Alors, conclut Ralph, je ne dirai pas que je déplore de vous voir célibataire. J'en suis au contraire ravi. Vous manquez de sérieux, une fois de plus, vous ne serez jamais sérieux. En jugerez-vous encore de même le jour où je vous dirai que je veux cesser de vivre seule ? Miss Stackpole lui lança un regard, où parut un moment se lire une promesse de réponse encourageante. Mais, à la grande surprise de Ralph, cette expression fit soudain place à une mine d'inquiétude et même de ressentiment. « Non, pas même, » répondit-elle sèchement, en tournant le dos pour s'éloigner. « Je n'ai pas conçu de passion pour votre ami, » dit le soir Ralph à sa cousine Isabelle, malgré notre conversation de ce matin sur le sujet. « Vous avez dit quelque chose qui lui a déplu, » répondit la jeune fille. « Elle s'est plainte de moi, » fit Ralph en ouvrant de grands yeux. « Elle m'a dit que les Européens ont une très vilaine façon de parler aux femmes. « Elle me traite donc d'Européen ?»« Du pire des Européens. Il paraît que vous lui avez dit ce qu'un Américain n'aurait jamais dit. Elle ne me l'a pas répété, cependant. » Ralph poussa un franc éclat de rire. « Quel extraordinaire mélange que cette femme ! A-t-elle cru que je lui faisais la cour ?»« Non, cela je crois que les Américains en sont capables aussi. Mais elle s'est évidemment imaginée que vous vous étiez mépris sur certaines de ses paroles et lui aviez assez mesquinement prêté une intention qu'elle n'avait pas. » J'ai cru qu'elle me proposait de l'épouser, et je l'ai acceptée. Voyez-vous là quelque chose de mesquin ? Isabelle sourit. C'était vilain à mon égard. Je ne veux pas que vous vous mariez. Que faire entre vous deux, ma chère cousine ? S'exclama Ralph. Miss Stackpole m'affirme que c'est mon premier devoir et qu'il lui appartient de veiller à ce que je m'en acquitte. Elle a un sentiment très vif du devoir, fit gravement Isabelle, et c'est lui qui dicte toutes ses paroles. C'est d'ailleurs pour cela que je l'aime. Elle trouve mal de votre part de garder tant de richesses pour vous seule. C'est ce qu'elle voulait vous faire entendre. Si vous avez cru qu'elle cherchait à vous attirer, vous vous êtes bien trompé. C'eût été une singulière façon de s'y prendre, je le reconnais, mais j'ai cru en effet qu'elle me faisait des avances. Excusez cette dépravation. Vous êtes joliment fat. Elle n'avait pas de vue intéressée et ne supposait pas que vous puissiez lui en prêter. « Il faut beaucoup de modestie pour parler avec ces femmes-là, » répondit Ralph avec humilité. « Mais c'est une personne assez bizarre. Elle est bien personnelle pour une femme qui demande aux autres de ne pas l'être. Elle entre sans frapper. »« Oui, » concéda Isabelle, « elle ne se rend pas assez compte de l'existence des marteaux de porte et ne les tient peut-être même que pour un prétentieux ornement. Elle trouve que toutes les portes devraient rester ouvertes, mais je n'en persiste pas moins à l'aimer. » Moi, je persiste à la trouver trop familière, grogna Ralph, légitimement embarrassé de s'être doublement mépris sur le compte de Miss Stackpole. Après tout, reprit Isabelle en souriant, c'est peut-être parce qu'elle est un peu vulgaire que je l'aime. Voilà une raison qui la flatterait. Je ne la lui exprimerai pas sous cette forme, je lui dirai que c'est parce qu'il y a quelque chose de peuple en elle. Qu'est-ce que vous savez du peuple, et quand c'est elle-même ? Plus que vous ne pensez. Et moi aussi j'en sais assez long pour sentir en elle une émanation de la grande démocratie, du sentiment du pays, de la nation. Je ne dis pas qu'elle résume tout cela, ce serait excessif, mais elle le suggère et le représente avec intensité. Alors vous l'aimez pour des raisons de patriotisme. Je crains que ce ne soit ces mêmes raisons qui m'éloignent d'elle. Ah ! Fit Isabelle, avec une sorte de soupir joyeux. Il y a tant de choses que j'aime. Dès qu'une chose me frappe avec une certaine intensité, je l'accepte. Je ne veux pas me donner des airs, mais je me crois un peu versatile. J'aime que les gens soient aux antipodes d'Henriette, à la façon des sœurs de Lord Warburton, par exemple. Tant que je regarde les sœurs Molineux, elles me semblent répondre à une sorte d'idéal. Puis Henriette arrive et sait d'emblée me convaincre, moins d'ailleurs par elle-même que pour tout ce qu'il y a derrière elle. « C'est son dos que vous aimez alors, » suggéra le jeune homme. « Elle a raison, » répondit Isabelle, « vous ne serez jamais sérieux. J'aime le grand pays fleuri et souriant qui s'étend par-delà les rivières et les prairies jusqu'au vert pacifique. Un parfum doux, frais et fort en émane, dont Henriette, excusez ma comparaison, apporte une bouffée dans ses vêtements. » Isabelle rougit légèrement en achevant cette déclaration, et la rougeur aussi bien que sa passagère ardeur lui allait si bien que Ralph continua de la regarder en souriant après qu'elle se fût tue. Je ne suis pas certain que le Pacifique soit si vert que cela, fit-il, mais vous débordez d'imagination. Quant à Henriette, elle exhale un parfum d'avenir à vous jeter par terre.